Moi, je suis en train de vous faire au pasteur de Gassal. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline que vous voyez au pasteurage. Rencontrons les deux amis de mes présidents pour une solution par rapport à ça.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. C'est l'heure de votre émission 100% interactive Parole aux auditeurs, une émission de Radio Capi qui vous permet de prendre la parole et de donner votre point de vue sur des sujets qui nécessairement ne font pas la une de l'actualité mais qui vous intéressent. Ce mercredi, nous parlons de la spoliation des aires protégées, nous parlons des parcs nationaux, des domaines de chasse et des réserves forestières. Les menaces qui s'exercent sur ces aires protégées sont nombreuses. Les plus importantes sont le braconnage, l'occupation des terres à l'intérieur des aires protégées par les populations et les bandes armées, l'exploitation illégale des minerais et l'exploitation forestière. À cela s'ajoutent d'autres menaces telles que la pauvreté grandissante, l'explosion démographique et les effets de guerre, aussi bien dans la RDC que dans certains pays voisins. Toutes ces menaces ont eu des conséquences néfastes sur le statut des aires protégées. Quelle est la situation dans votre milieu? Selon vous, que faut-il faire pour sécuriser et protéger ces parcs nationaux, ces domaines de chasse et les réserves forestières? Pour en parler, nous avons invité M. Cosmas Wilungula. Il est administrateur délégué général de l'Institut congolais de la conservation de la nature. Ce sujet vous captive, n'hésitez pas d'appeler notre standard, le 081-99-77-800, et nous ferons le plaisir de vous rappeler pour que vous puissiez intervenir. Pierre Lamégi, Arlette Mboui, Clovis Louboula, sous la supervision de Ben Kambamba, sont à la réalisation de cette émission. Soyez les bienvenus à cette émission qui vous intéresse.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
La RDC compte près de 7 parcs nationaux, plusieurs domaines et réserves de chasse, environ 57. Il y a aussi la réserve de faune à Okapi, il y a aussi d'autres réserves. Donc la RDC est tellement riche concernant son environnement pour pouvoir permettre un tourisme florissant. Mais on a constaté que les aires protégées sont vraiment menacées par le braconnage, l'occupation des terres par des populations, aussi par des bandes armées, aussi l'exploitation illégale des minerais, sans oublier l'exploitation illégale des nos forêts. Nous avons James qui est déjà en ligne, ainsi que Célestin. Bonjour James.
Bonjour madame la journaliste et bonjour à tout le monde de la République démocratique du Congo.
Oui, vous appelez de Goma, c'est dans le Nord Kivu. Quelle est la situation chez vous?
La situation est dans la ville de Goma, tout à fait, assez concerne la matière de la spoliation, vraiment est totalement précaire. Et non seulement l'exploitation des minerais, non seulement l'exploitation justement illégale des bois, tout à fait, et assez concerne la spoliation. Vous n'êtes pas sans ignorer que moi j'ai un prosup, madame. C'est-à-dire, tout spoliateur paye. Donc, il faut chaque fois payer des actes qui spolient notre belle nation, puisque ce n'est pas bon.
Oui.
En ce qui concerne la matière de la conservation, madame, et de la nature, vous savez, les réchauffements climatiques sont totalement exorbitants. De la vie de Goma, je suis là où je suis. Et je conseillerais vraiment à ceci, l'Afrique, vraiment, essayer de cesser ou de prendre d'autres mesures.
Mmh. Oui, James, est-ce qu'on a pu savoir qui spolie en fait ces aires protégées ou bien ce sont toujours des brigands qu'on n'a pas encore pu identifier?
À notre respect, je dirais que ce n'est pas trop loin de chez nous. Nous avons à peu près de quelques kilomètres le parc national de Virunga. Mais si vous verrez, nous avons une barrière appelée Operpé, c'est à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Goma, là où je me situe. Et ceci-là, on contrôle quand il y a les agents qui contrôlent tout juste un spoliateur, mais de toutes les façons, il fracasse s'il arrive à exercer la population. Et bon, en ce qui concerne cette spoliation, c'est le peuple qui a drôle, je ne m'en sais pas, qui entre frauduleusement et puis commence même à consommer des bois pour avoir des bois de chauffage et même de matières, comme vous l'aviez dit, de matières premières. Alors, moi, je déconseillerais totalement ce personnel de prendre autre mesure et justement d'affolier notre terrain.
Oui, apparemment, j'aime que ces populations vivent de ces forêts, hein, de ces aires protégées. Est-ce que vous avez une alternative à les proposer?
Mais tout à fait, madame. Vous savez que notre territoire, entre autres, notre milieu, justement, du parc, vous savez, nous vivons où nous traversons justement un adhésure. Et tout semble être incontrôlé. Et puis, je proposerai une mesure de l'État. Et l'État, comment assume sa responsabilité d'arrêter? Et il faut qu'il y ait une main mise, ce n'est pas une main tolérante, justement, à ceux qui affrontent la folie. Puisque, comment il faut les faire taxer trop, les faire payer trop à comment pour payer ou à.
Donc, vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des taxes lourdes, hein? Comme ça, ça pourra un peu freiner la spoliation. Merci beaucoup, James, pour votre participation. Bonjour, Célestin.
Madame, bonjour.
On vous appelle à partir d'ici de Kinshasa. On vous écoute, Célestin.
Ok. Tout simplement, j'appelle à partir d'ici pour intervenir à cette émission.
Mm-hmm.
J'ai écouté un frère là qui appelle déjà à partir de Goma à l'Est. Normalement, il y a un problème. Donc, le problème réel qui se pose là, c'est qu'il y a encore moins de policiers qui peuvent protéger normalement et garder cet espace qui est qui doit être hautement protégé de l'air.
Mm-hmm.
Et puis il y a aussi le problème des négociants en bois. Donc tous ces gens ici, le bois du Congo, ce sont des bois qui sont beaucoup recherchés en Europe. Il y a des gens qui courent derrière nos bois pour les exploiter. Il faudra aussi que l'État congolais veille à ce qu'il ait au moins moins de négociants en bois. Et tout cela fera que non, c'est une politique qu'on doit normalement initier pour décourager tous ces négociants en bois.
Mm-hmm.
Et le problème réel est que vous devez aussi savoir que non, la faune actuellement, le Congo a une réserve au mondial qui est juste derrière le Brésil aussi. Si je dois me dire, même on est vraiment bien côté de nous et le
Brésil. Oui, nous sommes la deuxième réserve sur le plan mondial.
Tous ces problèmes-là fait que non, quand il y a le problème aussi qui se pose actuellement avec la conférence qui s'est tenue à Copenhague. Vous savez que non, le peuple congolais n'a pas participé, il a joué le rôle protocolaire.
Non, l'État congolais était représenté par le ministre de l'Environnement. Il y avait une forte délégation des sénateurs, il y avait des députés, il y a aussi des organisations de la RDC qui étaient à Copenhague.
Ok, mais le rapport qu'on a eu était que non, le ministre ou le sénateur ne devait pas signer d'autres documents qui engageaient le pays. Parce que là, il y a eu des conférences où c'était le chef de l'État elle-même qui devait normalement signer document, prendre l'engagement réel pour passer. Donc, quand on le tient, le problème qu'on a ici, c'est d'abord un problème où on doit d'abord former le personnel qui est un nombre insuffisant. J'ai déjà eu à parler avec le DG, il y a un nombre insuffisant de policiers qui normalement doivent protéger ces terres.
Oui.
Et puis, il y a la surexploitation de matières premières, tout au long. Je dois vous dire aussi qu'à partir tous ces temps-là qui s'étendent de non-cuve jusqu'au fin fond, c'est vraiment ça contient beaucoup de matières précieuses.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Célestin, notre invité qui va faire son entrée dans quelques instants dans ce studio, M. Cosmas Wilungula. Il pourra donner plus de précisions concernant la formation de ces gardes de parc qui sont formés pour pouvoir protéger ces aires protégées. C'est une tautologie. Merci beaucoup, Célestin, pour votre intervention. Bonjour, David.
Merci beaucoup, madame.
Oui, David, on vous écoute.
Oui, moi je voulais dire dans ceci, il y a des gens qui se permettent de chasser dans les parcs, parfois en complicité avec les gardes-chasse, et cela termina certaines espèces des animaux. Par exemple, le capi qui est en voie de disparition, maïs à qui les gens aimaient la viande, mais ça disparaît aussi presque dans ce sens-là. Maintenant, je ne sais pas, que dit le gouvernement congolais à propos de gens qui chassent dans le parc national.
Merci beaucoup, David, pour votre question. Nous allons poser cette question. Notre invité a déjà fait son entrée. Bonjour, monsieur Cosmas Wilungula.
Bonjour, madame.
Oui, vous êtes administrateur délégué général de l'Institut congolais de la conservation de la nature. Nous sommes déjà en pleine émission. Nous avons les embouteillages à Kinshasa, mais l'essentiel, vous êtes là. Nous sommes en train de suivre David, qui est en train de donner son avis concernant cette situation des aires protégées. Comme vous le savez, ces aires sont menacées par les braconnages, l'occupation des terres à l'intérieur de ces aires par des populations, les bandes armées, l'exploitation illégale des minerais et aussi l'exploitation forestière qui un peu illégalement, qui se fait également illégalement, mais aussi il y a la pauvreté, aussi l'explosion et l'explosion démographique. Alors les populations ne vivent souvent que des forêts ou bien de ces aires protégées. Nous suivons tout juste David qui est en train de donner son avis, comment ça se passe chez lui. Bonjour David. David? Bon, on a perdu David, nous prenons directement Steve, qui nous appelle à partir de Mbandaka. Bonjour Steve. Steve aussi, il est parti, nous allons essayer de pouvoir le recontacter.
Parole aux auditeurs.
En gros, nous avons essayé de brosser un peu la situation des aires protégées, mais dites-nous, comme c'est vous qui êtes responsable, vous gérez ces aires protégées, quel est l'état de lieu que vous-même vous faites?
Merci beaucoup et merci à Radio Capi qui nous donne cette opportunité de pouvoir livrer effectivement des informations à tous vos auditeurs que nous savons être à travers tous les pays. En fait, vous l'avez si bien dit, je vous suivais même dans la voiture tout en venant, que effectivement vous avez donné un peu l'image globale des aires protégées. Vous savez, nous avons au moins 71 aires protégées en RDC, ce qui représente aujourd'hui 11% du territoire national, et cela fait 250 000 km². Les gens peuvent se rendre compte, c'est plus grand, je ne sais pas combien de fois que plusieurs pays d'Afrique, du monde et même nos pays voisins. Alors ça vous montre l'intérêt que nous avons au niveau de la conservation et la loi de notre code forestier, qui est la loi qui gère en fait le classement des forêts dans ce secteur-là, nous oblige à aller jusqu'à 15%. Donc nous devons atteindre 350 000 km² du territoire national à protéger. L'état actuel est assez préoccupant et nous pouvons très bien le dire. Nous avons des aires protégées que nous contrôlons totalement, presque à 100%, mais nous avons des aires protégées que nous contrôlons à peine à 30, 40, 50% compte tenu de toute la situation sécuritaire. Et j'ai suivi juste en venant les préoccupations de certains auditeurs pour vous dire que les aires protégées aujourd'hui constituent en fait le salut de la RDC de demain et principalement aussi de toute l'humanité. Vous savez, la RDC a eu la grâce. Nous sommes le seul pays africain qui a 5 sites naturels inscrits sur la liste des sites du patrimoine mondial, bien sûr, qui sont en danger, mais qui représentent énormément.
Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si vous réalisez ce que c'est aujourd'hui un site, devenir un site patrimoine mondial, ça signifie que nous avons de valeurs universelles exceptionnelles, ce qu'on appelle le merveille du monde, qui sont assez importants et qui font que nous ayons 5 parcs comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le parc de Virunga,
Kahuzi-Biega, le parc de Garamba, le parc de Salonga et la réserve de faune à
Okapi. Donc ce sont ces sites du patrimoine mondial. Mais comment est-ce qu'on a pu élever ces sites-là
en patrimoine mondial? En fait, ce sont des études faites à travers le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, l'humanité et nos amis savent précéder les événements. On a regardé des choses qui représentent une certaine valeur et qui pouvaient réellement porter l'intérêt de l'humanité tout entière. Et nous avons effectivement ces sites qui ont ce que nous appelons le valeur exceptionnelle universelle. Étant donné que ces valeurs exceptionnelles universelles...
Donc ce sont des espèces peut-être rares qu'on ne trouve pas ailleurs.
Ce sont des espèces rares qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce sont des écosystèmes rares qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce sont pratiquement beaucoup d'autres merveilles. En fait, ce sont de grandes merveilles qu'on trouve dans un point donné de l'humanité et qui méritent d'être protégées pour l'intérêt de l'humanité tout entière. Non pas seulement l'intérêt local ou national, mais on a voulu leur rehaussé au niveau de devenir un patrimoine mondial. Et c'est à ce titre-là que nous en avons 5 et nous avons 2 qui attendent en fait d'être aussi. Nous sommes en discussion avec le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO où nous avons
en attente de quel site?
Il s'agit du parc national de Maïko dont le dossier est suffisamment constitué et de la réserve naturelle d'Itombwe qui est aussi un très grand bastion de gorilles qui sont déjà pratiquement un peu à la porte, mais nous sommes au début des études pour pouvoir le présenter et en faire des sites de patrimoine mondial.
Oui, nous allons revenir sur ce sujet concernant ces sites. Qu'est-ce qu'on bénéficie lorsque un site est élevé au niveau du patrimoine mondial et on pourra un peu savoir comment ça se passe. Nous allons prendre Paulin qui est déjà en ligne. Il nous appelle Bissiro ainsi que Steve à Mbandaka.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Paulin.
Paulin. Oui, bonjour madame la journaliste.
Oui, Paulin, vous êtes là à partir du Siro concernant la situation des aires protégées. Comment ça se passe chez vous?
Oui, chez nous ici, ça se passe mais très bien parce que il y a des regards, les parcs qui sont chez nous ici dans la province orientale parce que il faut bien protéger nos richesses dans notre parc parce qu'il ne faut pas des appeler d'autres personnes qui nous protègent nos richesses, ça ne s'en fait pas faire. Parce que qu'est-ce qui manque le gouvernement, notre gouvernement, qu'on a de nous former nos policiers pour aller de protéger nos parcs? C'est ce qui manque mon intégration.
Mais quelle est la situation actuellement, le parc qui se trouve dans la province orientale?
Oui, la parc est dans la province orientale, en tout cas, c'est bien parce que notre richesse est toujours dans notre. Nous avons des notre policiers qui sont là-bas pour protéger parce qu'il y a des notre.
Oui.
Non.
Oui, Paulin.
Bon, oui, je suis allé, je vous écoute.
Oui, Paulin, donc pour vous dites qu'en fait, il faudrait plus se renforcer la sécurité des parcs avec des gardes de parcs qui existent déjà et qui dernièrement, je pense, qui ont même reçu une formation. Mais apparemment, ils ne sont pas assez nombreux, Paulin. Merci beaucoup pour votre intervention. Bonjour, Steve.
Bonjour, Radio Capi.
Oui, Steve, on vous écoute.
Merci. Pour la situation de l'Équateur, c'est d'actualité que les parcs au niveau de l'Équateur, notamment le parc de Salonga et le parc de Lomako, au niveau du territoire de Bessali, sont menacés par l'espace des gens, l'espace des braconniers. Mais madame, moi je vais un peu relever une situation. Aujourd'hui, on parle de la protection de la nature, mais il se pose deux paramètres. On voit la population qui entoure ces parcs et ensuite on voit la protection de la nature. On voit le niveau de la vie de cette population-là. Comment cette population vit? Quel gain est cette population quand ces parcs sont protégés? Et on voit aussi les aires qui sont protégées.
C'est une bonne chose de protéger. Mais maintenant, on voit la population. Quel est le niveau de vie de la population en République démocratique du Congo, notamment les gens qui vivent dans l'arrière-pays. Aujourd'hui, le ministre au niveau national prend des décisions comme ça. Le monsieur de la population prend des décisions comme ça. Mais il faut jeter un coup d'œil sur comment ces gens vivent. Ils gagnent quoi? Ils vivent comment? Ils sont comme des animaux?
Oui, mais quelles sont les propositions que vous pouvez faire? Parce que vous pensez que les populations vivent que de ces aires protégées.
Je prends la proposition telle que le niveau de vie de la population qui entoure ces parcs doit être relevé. Le gouvernement de la République doit penser sur ce genre-là, accorder plus de moyens pour que ces aires soient protégées. Vous allez faire une lutte pour rien parce que ça ne va pas prendre effet. Étant donné que leur vie est encore en miniature, c'est-à-dire la vie n'est pas même considérée, ils vivent dans des conditions infrahumaines, alors en ce stade-là, les aires ne seront pas protégées. Pour protéger l'UNESCO, comme être le partenaire en soi externe, doit voir quand même la vie de ces gens-là. Après, ces airs, les animaux-là, seront immédiatement après. C'est quelque chose qui viendra
immédiatement.
Mais si on n'a pas encore reconnu la vie de ces gens-là, je vois que c'est une condition qui n'a pas sa raison d'être.
Merci beaucoup, Steve. On a compris votre proposition. Vous pensez qu'il serait difficile de protéger ces airs tant que la population qui est vraiment pauvre n'arrive pas à se stabiliser, surtout sur le plan économique, et que cette population se voit obligée de dépendre totalement de ces aires protégées. Merci Steph pour votre intervention. Bonjour Papy.
Oui, bonjour madame.
Je vous appelle à partir de Kinshasa, on vous écoute.
Oui, je vous appelle à partir de Kinshasa. Ce que moi je constate, c'est que, en fait, je voudrais dire que cette problématique-là devait nous préoccuper tous, en commençant par les autorités du pays. Et pour cela, je pense qu'il faudra que les autorités fassent un effort pour rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, parce que toutes les guerres que nous avons connues dans le pays n'ont fait que aggraver la situation, et les actes de braconnage continuent à se multiplier, ce qui fait que il devient difficile de contrôler ces airs-là et ça pose problème. Et en dehors de ça, nous ne devons pas oublier que, c'est comme un intervenant l'a souligné, les habitants, les populations qui vivent aux alentours de ces airs-là, on doit aussi prêter une attention particulière à leurs revendications parce que ce sont des gens qui vivent dans la pauvreté et qui ne savent que pour survivre, qui ne savent que se rabattre sur ces airs-là pour essayer de trouver quelque chose pour la survie.
Oui.
Donc je pense que nos autorités doivent faire un effort, et la communauté internationale aussi, parce qu'il y a des airs-là qui sont déclarés
patrimoine mondial.
Je pense que la communauté internationale serait aussi œuvre utile si elle nous aidait à protéger ces airs-là, mais juste là, doit commencer par la prise en charge des populations qui vivent aux alentours de ces airs-là, et puis que nos autorités fassent un effort pour essayer de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire pour que ces gens d'actes-là ne puissent pas
Merci Papy, vous nous appelez à partir de Kinshasa. Nous avons aussi Christophe qui est en ligne, nous appelle à partir de Kananga. Bonjour Christophe.
Bonjour madame le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Oui, Christophe, est-ce que vous êtes du même avis que Steve et même de Papy qui pensent qu'il faudrait d'abord prendre en charge les populations qui vivent autour de ces aires protégées avant de pouvoir penser comment on peut bien sécuriser ces aires?
Oui, madame, d'abord dans presque le même sens que le précédent, hein. Je donne partiellement raison et partiellement non. Parce que, pourquoi ça? Nous voyons que, premièrement, lorsque la population est aisée, vous voyez que vraiment, il n'y a pas tellement des abus. Et d'autre part, vous voyez que lorsque la population est vraiment bouleversée, la population est bousculée à force de troubles,
soit la guerre, soit autre trouble social que ce soit, vous verrez que la population n'est pas à l'aise. Toutefois, ça peut être dérangé.
Merci beaucoup, Christophe, pour votre intervention. Nous prenons le dernier auditeur de cette série. Il s'agit d'Alphonse, il s'appelle de Bandangungu. Bonjour, Adolphe. Adolphe? On a perdu Adolphe, on pourra essayer peut-être de le recontacter plus tard. Notre invité, il s'agit de Monsieur Cosmas Wilula, vous êtes administrateur délégué général de l'Institut congolais de la conservation de la nature. Vous avez suivi nos auditeurs, ils ont plusieurs préoccupations. Comment est-ce que vous pouvez donner des réponses?
C'est vrai, merci. Madame, j'ai suivi Steve, Papy et même Christophe. En fait, leurs préoccupations sont légitimes. Ce qui est vrai que les gens oublient une chose, que lorsque nous conservons, nous ne protégeons pas, nous ne conservons pas rien que pour protéger ou conserver, non. Nous conservons, c'est pour l'intérêt de ces populations-là. Elles n'arrivent pas encore à réaliser tout à fait que ce qui est fait, c'est pour eux. Lorsqu'on parle de parc de la réserve des faune de Lomako, parc de Salong et autres, madame, il n'y a pas un seul parc ou une seule aire protégée qui va quitter son milieu naturel. Ça signifie que c'est d'abord un patrimoine pour ces communautés-là. C'est parce que nous, en tant que mandataires de l'État, c'est pas qu'elles ne nous appartiennent pas. C'est ça une de grosses erreurs que les gens croient. C'est pas qu'elles n'appartiennent pas aux gardes. Ces gardes-là viennent de toutes parts.
Mais peut-être que les populations ne sentent pas l'effet immédiat.
Voilà, et c'est là où je voudrais bien en arriver. Lorsque nous arrivons, je prends le cas qu'il a cité, Steve, à Lomako. On a commencé Lomako depuis 2005-2006. On a recruté 60 gardes à Lomako. Tous ces 60 gardes sont des enfants de cette population. Aucun de gardes à Lomako n'a quitté, ni même Pambandaka ou Kinshasa. Et lorsque on les a formés, aujourd'hui, le dernier des gardes, je peux me permettre même de vous dire, la petite motivation du dernier de garde dans ce milieu-là est de $100. Vous vous rendez compte, c'est flux déjà d'apport qui est donné. J'ai été jusqu'à Lomako, jusqu'à Lingunda. Regardez ce que ça créait comme camp et comment ça ramenait la vie. Et ça, ce n'était qu'une prime. Donc, au moins, le dernier de garde pourrait déjà avoisiner peut-être plus de ça que je viens de vous dire ici.
Mais quelle est l'alternative? Parce que ces populations chassent dans ces parcs, ces populations vivent du bois, du chauffage.
Maintenant,
qu'est-ce que vous leur donnez?
Nous avons un mécanisme d'encadrement. Ces populations-là sont suffisamment constituées dans des comités de conservation, ce que nous appelons l'approche en fait communautaire. Quand je disais que nous conservons pour eux, effectivement, nous ne pouvons pas conserver sans eux. Et notre objectif, c'est d'impliquer les communautés à la protection, à la conservation. Aujourd'hui, ces populations bénéficient. Les pisteurs que nous prenons, ce sont eux. Les guides qu'on prend, même pour toutes les visites, ce sont eux. Mais aussi des actions maintenant, comme vous dites, des solutions alternatives. Aujourd'hui, on apporte à ces communautés, effectivement, une expertise, que ce soit de mécanismes, même du fumage de poissons, des séchages de poissons, des mécanismes agricoles, pratiquement les semences améliorées et même le mode d'élevage. En fait, ils apprennent comment, au lieu de continuer à tuer ces singes-là, qui sont d'un intérêt réel, parce que je vous dis, un bonobo tué vous rapporte combien? À peine $20-30. Mais lorsque le touriste qui arrive jusqu'à la visite, les bonobos, il paye au moins $300-400.
Et peut-être que ne ressentent pas cela, peut-être que ça, les montants qui sont payés vont dans les poches des individus.
Non, c'est vrai que dans leurs poches de leur chef, mais ce qui est plus important que nous sommes en train de faire, c'est de leur amener des projets d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, ils sont suffisamment organisés et ils le savent. C'est vrai, on ne peut pas encore combler tout. Il y a le développement rural qui a sa part des choses. Nous, l'Institut congolais de conservation de la nature, avec nos partenaires, nous apportons ce que nous pouvons apporter à toutes les populations riveraines. Mais beaucoup plus la sensibilisation et la culture. Je peux vous dire, madame,
je fais déjà ce terrain, sensibiliser les populations.
Nous sensibilisons énormément les populations. Vous savez, nous ne sommes pas très différents avec nos pays voisins, même sur le plan de revenus réels par habitant. Mais quand vous regardez, il y a 2 semaines, le parc Queen Elizabeth de l'Ouganda est en face du parc de Virunga. Mais vous serez surpris de voir dans le village de paysans, les animaux, les antilopes, les zèbres et autres, cohabite presque avec les chèvres et les autres. Et il n'y a personne qui essaie d'aller les toucher, les tuer.
Mais à un moment, on parlait même qu'il y a eu une migration des animaux du parc de la RDC qui allaient dans des
parcs voisins. Et ça a été curieusement le salut de nos animaux, parce que les animaux qui sont partis là-bas n'ont pas été soumis au braconnage ni à la tuerie. Et lorsque la paix revient, les animaux reviennent. Les animaux sont comme nous les hommes, ils reconnaissent leur habitat, ils reconnaissent leur milieu, et dans la période de paix, tous ces animaux sont en train de revenir au Congo. Aujourd'hui, Virunga est en train d'être repeuplé encore de tous les animaux qui sont en train de rentrer.
Déjà 8 ans, Radio Okapi fête le 25 février 2010 son 8e année. En effet, un concours radiophonique vous est proposé. Voici donc les questions.
Quel est le nom du journaliste qui est passé en ondes en premier le 25 février 2002?
Comment s'appelle la première émission qui a été mise en ondes sur Radio Okapi?
Radio Okapi couvre combien de villes aujourd'hui en RDC?
Quel est le nom du premier représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo?
Que faut-il faire pour se préserver contre le VIH qui a?
Pour vos réponses, vous nous les envoyez à l'adresse internet service@radiocapi.net au plus tard ce samedi 27 février 2010. Un prix de visibilité des activités de la MONUC composé d'un lot important des objets promotionnels de la section VIH-SIDA et autres agences des Nations Unies vous sera offert à tous et à toutes. Bonne chance pour ce concours pour consacrer les 8 ans de Radio Okapi. Pour rappeler que nous sommes dans l'émission Parole aux auditeurs et Parole aux auditeurs de Radio Capi ce mercredi, nous parlons de la spoliation des aires protégées, nous parlons des parcs nationaux, des domaines de chasse et des réserves forestières. Quelle est la situation dans votre milieu selon vous? Que faut-il faire pour les protéger? Pour en parler, nous avons invité M. Cosmas Wilungula, il est administrateur délégué général de l'Institut congolais de la conservation de la nature. Si vous voulez participer à cette émission, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous appeler au 081 99 77 800, le 081 99 77 800, ou vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Radio Okapi s'écrit en un mot avec deux lettres O. Nous avons Alphonse qui est déjà en ligne, il nous appelle de Banzangungu. Bonjour Alphonse.
Bonjour, j'appelle de Matadi.
De Matadi. C'est dans le Bas-Congo. Dites-nous un peu quelle est la situation dans votre milieu concernant les aires protégées.
Bon, ici à Matadi, il n'y a pas des aires protégées, mais je voudrais vite parler des réserves forestières au niveau de la forêt du Mayombe.
Et comment ça se présente là-bas?
Oui, il y a une grande dichotomie, madame, entre protection des sévères protégés, s'il faut le dire ainsi, mais aussi la sécurité de la population. Mm-hmm. Parce que quand vous voyez bien, ces forêts, la grande forêt du Mayombe dont on a tant parlé, est en pleine détérioration. Ça se détériore, mais ça se détériore avec la détérioration des conditions socio-économiques de la population. Parce que maintenant, la population, ça donne, il n'y a pas d'emploi, il faut se vivre, c'est plus les macalas, tout ça, les brèves qui font, ce qui fait que la forêt, cette grande forêt du Mayombe, de là que nous on a étudié, c'est une forêt qui tend à la disparition. Je ne connais pas l'invité qui va me contredire.
Mais entre-temps, est-ce qu'il n'y a pas des structures, surtout des organisations de protection de l'environnement qui s'adonnent souvent au reboisement? Est-ce que du côté dans le Mayombe, ça n'existe pas?
Oui, il y a les reboisements, mais ce n'est pas proportionnel au déboisement. Donc, il faut que ce soit proportionnel. Pour cela, il faudrait que la population, normalement, ait d'autres activités pour qu'elle puisse... Parce qu'il y a, dans certains milieux, dans le Bas-Fleuve, la population a comme activité principale, c'est les braises, c'est la fabrication des braises. C'est comme source d'énergie, source d'énergie, parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Maintenant, il y a le reboisement, mais qui n'est pas proportionnel à la destruction.
Oui. Merci beaucoup, Alphonse, pour votre témoignage concernant la détérioration de la forêt dans le Mayumbé. Bonjour, Madame Jackie. Madame Jackie nous appelle de Kisangani, mais la réalisation va essayer encore de pouvoir la recontacter. Nous revenons ici à Kinshasa, où se trouve Marcelo. Bonjour Marcelo.
Oui, bonjour madame.
Marcelo, on vous écoute.
Oui, merci. D'ailleurs, je me sens moi-même fier en qualité de Congolais. Mm-hmm. Quand je vois le gouvernement avancer dans des initiatives de vouloir protéger aussi nos airs, payer un tourisme fort, ça me conforte.
Mm-hmm.
Et surtout, féliciter le ministre de l'Environnement et celui du tourisme, en passant.
Mmh.
Mais une chose que je veux soulever à ce niveau, c'est lequel. Vous savez, madame, le tourisme exige beaucoup de choses. Il ne suffit pas seulement de protéger nos réserves, mais aussi de créer des moyens de deux côtés. De l'un, vouloir équilibrer aussi les niveaux de cette même population qui vit de l'autre côté. Parce que jusque-là, la population congolaise est en grande partie dominée par les paysans.
Mmh.
Si ces gens ne se retrouvent pas, croyez-vous que cette protection sera mise avec beaucoup de considération? Je crois que ce sera une lutte sans merci. Ces paysans se diront, nous ne trouvons pas notre compte, et voilà qu'est-ce que nous allons faire. Allons en chasse, allons chercher des bois pour faire des braises, et la série va juste tourner en rond. Et de l'autre côté, protéger, c'est bien. Mais que le gouvernement, que le ministère du Tourisme, ensemble avec le ministère de l'Environnement, voient un peu quels sont les moyens qu'ils vont disponibiliser pour encore attirer peut-être la promotion internationale au point de vouloir accueillir un bon nombre de touristes. Par exemple, en favorisant une circulation rapide et surtout en créant des hôtels juste tout autour de là que se trouvent ces réserves. Parce qu'actuellement, madame, vous savez, ce n'est qu'à Kinshasa qu'on peut trouver beaucoup d'hôtels. Mais dans nos provinces, il n'y a pas assez d'hôtels qui puissent représenter ce que le ministre, disons, le gouvernement est en voie de vouloir faire.
Mm-hmm.
Sinon, à part ça, je vois que c'est bien. Ma demande, c'est juste vouloir que le ministre, les deux ministres là, ils s'arrangent ensemble avec le gouvernement à pouvoir créer ce que je vais d'un côté, vouloir acheter la population aussi qui vit tout autour derrière, qui se retrouver, et de l'autre, vouloir attirer la publicité internationale. Mais sinon, je soutiens, j'encourage ça.
Merci beaucoup, Marcelo, pour votre intervention assez pertinente. Bonjour, Bakuka.
Oui, allô?
Oui, Bakuka, vous nous appelez à partir de Bukavu, dans le sud Kivu. On vous écoute.
Oui, ma préoccupation est la suivante. Toujours en rapport avec la conservation de la nature, je parle plus précisément de la Parc national de Kaouzi-Biega.
Mm-hmm.
Qui se prolonge justement dans les territoires de Chabunda, précisément à Lulingu.
Oui, et qu'est-ce qui se passe au niveau de...
Alors, moi, je me demande, je ne suis pas différent des premiers, de mes prédécesseurs là, qui ont intervenu. Alors, c'est mieux de procéder à la conservation des animaux. Maintenant, je me demande, s'il faut envoyer des touristes, par exemple, dans les sites de Lingu là-bas, il n'y a pas de route. Il n'y a pas rien pour la réinsertion sociale. Comment la population prendra en considération la valeur d'un parc là où ils n'ont jamais vu un touriste?
Mm-hmm.
Il n'y a pas même moyen d'évacuer les marchandises parce que beaucoup de gens là ne vivent qu'il y ait de la forêt. Ils peuvent se lancer dans l'agriculture. Comment évacuer les marchandises? Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie de communication. Donc les gens sont totalement désenclavés.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Bakuka. Ce sont vraiment des préoccupations assez pertinentes. Nous prenons le dernier auditeur de cette série. Il s'agit d'Alain. Bonjour, Alain.
Bonjour.
Je vous appelle à partir d'ici de Kinshasa. On vous écoute.
Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. J'aimerais porter tout simplement un correctif par rapport à l'intervention de l'un de vos correspondants.
Mmh.
Monsieur Paulin qui appelait à partir du jour. dans son intervention, M. Follin a semblé reconnaître la situation de la conservation qui est portée petit peu mieux vers ce point de la République.
Mais c'est son point de vue.
Oui, c'est son point de vue, justement, à ce qui n'est pas découvert dans la mesure où la DGL a reconnu que le parc de la Garamba était un domaine des réserves de l'humanité de l'UNESCO, mais ce parc est en voie de disparition par rapport à ces espèces. En 2001, nous avions 37 rhinocéros blancs. Mais aujourd'hui, d'après les rapports de l'ICTN, on a des traces de 4 rhinocéros seulement. Et c'est là justement à cause des guerres en répétition et de manière particulière l'instruction du quartier général de la LRA dans ces parcs. Mmh. Donc la situation n'est pas bonne. Et de deux, il y a les réserves qui sont dans le milieu, notamment la, les anciennes réserves, nous reconnaissons ça quand nous étions enfin, il y avait la réserve du chasse de Pengue qui a disparu complètement, personne n'en parle. Il y a la réserve de Epi. Lui aussi, c'est dans les oubliettes, toute pratication de la conservation dans les études de l'Ontouéle est plutôt très très mauvaise. Mm-hmm. Et j'aimerais tout simplement appeler à la volonté de l'ADG qui est sur les antennes, qui, à l'entendre parler, est quand même actif. Je voudrais tout simplement lui demander de faire un effort pour s'occuper un peu de ces points-là, mm-hmm. du parc de la Garamba, et surtout de la réhabilitation de la conservation des rhinocéros blancs. Qu'on nous dise qu'on fasse un effort pour sauver les sites que les quatre qu'on prétend être encore dans ces parcs.
On a découvert que des traces de ces rhinocéros blancs. Oui. Merci Alain pour votre témoignage concernant le parc de Garamba dans la province orientale. Notre invité, M. Cosmas, vous avez suivi nos auditeurs, c'est assez pertinent, une réaction.
Oui, en fait, je voudrais effectivement commencer par Alain pour lui dire, et c'est bien qu'il a pu relever, je comprends bien qu'il maîtrise bien la situation des aires protégées dans la province orientale. Je vais lui rassurer que la réserve ou le domaine de chasse de Pingui et Pi sont pratiquement presque en réhabilitation. S'il peut voir, il y a déjà un conservateur qui est envoyé par là. Donc, nous sommes en train de travailler pour ça.
Mais comment on peut faire renaître une réserve plutôt de chasse?
Oui, en fait, c'était...
Il n'y a plus de bêtes. Comment ça?
Non, il y a des bêtes. C'est le problème que les gens ne savent pas. Les bêtes sont là. On a connu le problème, effectivement, des guerres. Mais je vous dis que les guerres ne sont pas un moyen pour décimer les bêtes, non. Parce que même les gens qui sont en guerre, ils peuvent tuer juste pour se nourrir. Les gens qui tuent pour se nourrir ne peuvent pas décimer les bêtes.
Ils sont obligés d'amener des spécimens pour...
Il y a des spécimens qu'on peut amener. Mais il y en a de bêtes qui sont là. Les animaux, quand ils sont beaucoup plus traqués, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent juste un mouvement contraire. Vous les traquez toujours les jours, ils développent et ils se promènent la nuit pendant que vous n'êtes pas là. Donc, ce sont des mécanismes qu'on arrive à faire.
Ils sont toujours là. Mais concernant ces rhinocéros.
Les rhinocéros, ça, c'est une réalité. Je suis content qu'on soulève ce problème aujourd'hui parce que je pense très bien que nos compatriotes de la province orientale, et même quand nous parlons ici, les notables de la province orientale doivent aujourd'hui assumer leurs responsabilités. Il y a quelques années, depuis déjà dans les années 2002, l'ICCN avec ce partenaire avait fait des études clairement faites pour pouvoir déplacer ce peu de rhinocéros. C'est une disparition d'une espèce qui disparaît au monde.
C'est pas un déplacement. Hein.
Qu'on ne retrouvera plus nulle part au monde. Et si on les avait déplacés dans un endroit où on pouvait reconstituer les noyaux, comme tous les spécialistes avaient trouvé, aujourd'hui, on aurait encore la sous-espèce des rhinocéros blancs du Nord. C'est une sous-espèce qui est totalement...
Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour l'instant pour
ça? Nous avons l'obligation de le protéger. Mais nous savons combien nous sommes suffisamment diminués pour assurer la protection qu'il faut sur place. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire, vous savez, le braconnier, comme il a dit, la LRA, il n'a pas cité les Mbororo, il n'a pas cité tous les autres à l'époque, c'était même la FPLA. Donc, le rebelle soudanais était là, les rebelles ougandais étaient là, et les Mbororo étaient là. Ces gens-là étaient fortement armés face à des gardes qui n'ont que des A-40, qui ne pouvaient pas résister devant ces attaques assez virulentes de tous ces braconniers professionnels. Mm-hmm. Vous connaissez les vertus de cornes et de rhinos. C'est qui sait que c'était un animal qui était totalement ciblé et qui présentait pour ces gens-là un cas réel.
Mm-hmm.
Donc, nous avons tout fait pour essayer de protéger ce que nous pouvons faire, même si on trouve les traces. Moi, je dirais, c'est peut-être même une grâce de Dieu si on pourrait retrouver encore un rhino. Et pourtant, le danger, c'est quoi? Le danger, ce n'est pas tellement ça. C'est que s'il n'y a plus un seul rhino à Garamba, le parc risque d'être rayé de la liste du site du patrimoine mondial. Parce que c'est ça la valeur exceptionnelle.
Les rhinocéros.
Oui, s'il n'y en a plus jusqu'à maintenant, là, juste au mois de mars ici, l'équipe des experts de l'UNESCO et de l'ICEN vont arriver pour aller essayer de faire le bilan et l'évaluation de recherche et le monitoring avec le CSNICCR. Et si on ne trouve même plus ce trace-là, le parc de Garamba risque d'être rayé. Nous sommes en train de chercher d'autres voies pour prouver qu'il y a d'autres valeurs en dehors des rhinos, mais il faut que nos arguments soient acceptés au comité du patrimoine mondial au mois de juin, peut-être au Brésil. Sinon, nous allons perdre un parc qui sera rayé du patrimoine mondial.
En fait, l'une des finalités de la protection, la sécurisation de ces aires protégées, c'est le tourisme. Mais apparemment, la RDC n'a pas assez d'infrastructures pour pouvoir développer ce tourisme.
Oui, ça c'est une réalité, mais je vous dis, au mois d'avril ou au mois de mai, nous allons inaugurer le premier hôtel de parc que nous venons de construire sur les financements.
La RDC est assez vaste.
Pour une première fois, vous allez le voir, juste dans un mois et demi, nous inaugurons à Garamba un des hôtels de parc très luxueux et d'une très de standard international. Nous sommes en train de faire ça à Virunga, à Rumangabo.
Et il n'y a que ce projet-là, dans notre parc,
Virunga, donc Garamba, qui est déjà
disponible.
Salonga, nous avons ce projet qui est en cours. Donc d'ici la fin de l'année, on ne manquera pas deux, trois hôtels que nous allons faire. Effectivement, c'est une question.
Et les routes aussi, parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait des
voies d'accès. Ça, c'est une réalité. L'ICCN, en fait, ne remplace pas le gouvernement congolais. L'ICCN ne
fait des projets
dans la responsabilité que nous avons. Nous sommes une des entreprises du gouvernement.
Et vous pouvez faire pression aussi.
Nous faisons pression. Nous faisons même la route, madame, aujourd'hui, la route Mbao-Kamango dans le parc de Virunga, Bukima jusqu'à Rumangabo. Nous avons quelques plusieurs. Et aujourd'hui, même Boinde Salonga, donc Boinde Mokoto. Ce sont des routes qui sont sur notre agenda et qui sont en train d'être réalisées par l'ICSN et ses partenaires. Oui. Donc nous veillons pour donner aux communautés, parce que tout le monde est préoccupé par les communautés, nous disons que l'ICSN protège pour les communautés. Donc pour nous, l'homme, la population, elle est au centre de toute la protection. Nous ne pouvons pas rien que prendre les animaux, les faunes et autres, et ignorer que ces animaux sont là pour cette population-là.
Oui, mais souvent qu'on parle de patrimoine mondial de l'UNESCO pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'il peut retenir de cela?
Non, ce qu'il peut retenir, c'est que ce que nous avons, c'est maintenant aujourd'hui partie de ce qu'on appellerait le patrimoine, effectivement, de l'humanité tout entière. Donc, l'humanité veille, l'humanité contribue. Et je peux vous dire, madame, qu'aujourd'hui, les gens ne le savent même pas. Rien que le 5 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO que nous avons dans notre pays nous permet de mobiliser plus de 10 à 15 millions de dollars par an dans notre pays. Il n'y a aucune...
Quel mécanisme?
Par le mécanisme de toute la coopération que nous avons avec le partenaire, nous avons en cette année 7 millions de dollars de la Banque mondiale. Nous avons 18 millions d'euros de l'Union européenne.
Pour entretenir ces parcs?
Oui, 11 millions d'euros de la Banque allemande de financement. Rien que pour travailler effectivement dans le parc. Si nous avons des parcs qui existent aujourd'hui et qui représentent une valeur inestimable, là les gens ne le savent pas, nous n'avons pas perdu nos parcs dans notre pays.
Juste parce qu'ils ne le ressentent pas, ce n'est pas visible.
C'est
des chiffres sur papier,
c'est vrai qu'ils
n'arrivent pas à constater un changement.
Oui, à Kinshasa on ne le ressent pas, mais d'ici peu vous allez le ressentir. Nous avons la réserve de faune en Bombolumene et même le parc de l'Ancelé juste à côté ici. Vous verrez que nous allons essayer de le réhabiliter. Dans très peu de temps, vous allez revivre ce qu'il y a. Et le tourisme et les infrastructures touristiques, ils vont être faits en Sénégal et en Bombolumène pratiquement peut-être d'ici avant la fin de cette année.
Donc, on ira visiter pour voir.
Voilà, j'invite déjà même Radio Capi et nos auditeurs qui connaissent bien Bombonoumene, qu'ils peuvent passer déjà sur site pour voir les débuts des travaux.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Chamba.
Oui, bonjour madame, bonjour, je salue tous les auditeurs de la radio.
Oui Chamba, vous nous appelez à partir de Kindu dans le Maïma, on vous écoute. Quelle est la situation des aires protégées dans vos milieux là-bas?
En fait, la situation est pratiquement la même. Ce sont des populations, pour moi, à mon avis, ce sont des populations où les communautés locales y en payent le prix, parce qu'il n'y a pas eu de mécanismes qui ont été pris au préalable pour améliorer les conditions de vie de ces communautés à qui on demande de ne pas exploiter les forêts ou de ne pas faire le braconnage. Et d'ailleurs, à ma connaissance, quand on arrête le braconnage sans faire quoi que ce soit au niveau de la communauté pour essayer ne serait-ce que d'améliorer ses conditions de vie, ce qui va arriver, c'est que c'est des enfants qui n'iront plus à l'école parce qu'il y en a qui ne vivent que de ça. C'est la source principale des revenus de la communauté.
Mm-hmm.
Et quand on leur demande de ne pas cultiver, de ne pas exploiter la forêt, de ne pas abattre, de ne pas faire la chasse, il fallait trouver d'autres alternatives.
Mm-hmm.
Je pense que j'étais très content d'entendre votre invité quand il parlait de la sensibilisation, c'est bien, mais il a aussi dit qu'il y a l'élevage qu'on est en train d'apprendre à la communauté. Mais moi, je pense que c'est par là qu'il fallait commencer.
Mm-hmm.
C'est par là qu'il fallait commencer, et là, vite, la population aurait vite compris et aurait arrêté d'abattre des animaux qui sont pour nous un patrimoine que nous devons protéger.
Mm-hmm.
Et par rapport à ça, toujours, je me dis, bon, parce que j'ai l'impression que dans notre pays, c'est les attitudes que nous devons adopter nous sont dictées de l'extérieur, la plupart du temps. Il fallait que la communauté internationale parle des émissions de gaz à effet de serre pour qu'on comprenne aujourd'hui que non, il faut protéger nos forêts, il faut avoir la réserve de carbone. Et aujourd'hui, il fallait que la communauté internationale nous dise non, écoutez, vous devez protéger telle ou telle autre espèce pour qu'on les comprenne.
Vous ne pensez pas que c'est parce que nous n'avons pas une technologie assez poussée Allô?
Oui, technologie peut-être assez poussée par rapport à l'émission de au réchauffement climatique.
Non, par rapport au pays.
Notre faune. Est-ce que nous avons besoin que quelqu'un nous le demande de l'extérieur? Parce que maintenant, vous savez, la conséquence, c'est quoi? C'est que c'est juste quelques dirigeants ou quelques responsables au sommet de l'État qui, pour avoir une bonne note de la part de ceux qui leur disent des choses, ils prennent toutes ces décisions-là. Mais les décisions, la communauté n'arrive pas à s'approprier de toutes ces mesures-là. Et c'est ça qui arrive. Maintenant, la population pense que, quelque part, elle est sacrifiée pour parce qu'on veut plaire à telle ou telle autre personne, alors que c'est pour son bien aussi. On arrive à prendre des initiatives par voie.
Oui,
d'attendre que la communauté internationale nous dise que c'est que nous devons faire.
Oui, peut-être, Chamba, aussi que nous-mêmes qui avons toute cette flore et faune, nous ne nous rendons pas compte peut-être de la beauté de l'environnement. Peut-être nous voyons que c'est tout à fait naturel, c'est normal. Est-ce que vous ne pensez pas aussi parce que nous ne savons pas ce que cela représente?
Oui, c'est là que j'ai dit, madame, vous avez tout à fait raison. C'est ça justement mon avis. Vous avez tout à fait raison. Je parle de la sensibilisation comme votre invité l'a dit, mais je pense qu'on devait commencer par là. Ça devait arriver plusieurs années avant.
Mm-hmm.
Je pense que si je dois dire que c'est nous tous qui comprenons comment je ne suis pas du domaine, c'est vrai, mais nous avons des experts en conservation de la nature, des experts en ceci, cela. Est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre des initiatives au lieu d'attendre à ce que la communauté internationale puisse tourner chaque fois le temps et que nous, on soit en train de subir toujours.
Mm-hmm.
Je n'ai pas juste l'exemple de la santé, madame.
Oui.
Moi, je suis du secteur de santé. On me dit toujours que quand vous voulez, je prends une autre communauté qui n'a pas de toilettes, si vous voulez que la communauté se construise des toilettes, il faut d'abord créer le besoin. Ça veut dire expliquer, faire comprendre à la population que sans toilettes, ce sont des épidémies qui vont survenir, sans des installations sanitaires, bien sûr, ce sont des épidémies qui vont survenir et que la population serait exposée à des maladies et qu'on sort, les gens vont mourir. Et vous créez une sorte de besoin.
Mmh.
Et quand vous allez leur demander de construire des toilettes, la population, elle va les consigner et les utiliser. Et quand vous dites seulement à la population, non, écoutez, consigner des latrines, sinon on vous arrête. Et d'abord, on consigne des latrines, mais les gens continuent à aller en brousse.
Voilà, merci.
Actuellement, même pour la conservation de la nature, pour la conservation de notre faune, la population n'était pas contrainte. Mais jusque-là, elle n'a pas encore compris que c'est vraiment
dans son intérêt. Donc, vous pensez qu'il faudrait. Vous pensez qu'il faudrait des mesures coercitives hein, pour pouvoir mieux protéger la nature, c'est votre point de vue. Bonjour Joël.
Ok, merci. Bonjour à tous les auditeurs.
Oui, Joël, vous appelez de Madagascar, on vous écoute.
Oui, madame, à l'Équateur, la situation est très catastrophique, dans ce sens que l'État est presque démissionnaire dans ces domaines. Depuis l'année passée, le gouvernement provincial a demandé l'intervention du gouvernement central pour la sécurisation des parcs. Jusque-là, rien ne s'est fait pendant que les espèces rares continuent à disparaître. Alors moi, je voudrais proposer ceci. Au lieu de chercher à distancer la population qui habite à côté des parcs, on doit plutôt chercher à éduquer la population, parce que tout le monde ne comprend pas pourquoi il faut protéger les espèces rares, pourquoi on ne doit pas abattre, par exemple, les éléphants. Alors, il faut commencer par faire comprendre à la population les bien fondés de cette protection.
Merci beaucoup, Joël. Vous pensez qu'il faudrait vraiment sensibiliser la population? Nous allons bientôt avoir notre flash d'information, Monsieur Cosmas Wilungula. Je vous invite à suivre ce flash d'information, ainsi à ce que Séraphin de rester en ligne. On va le prendre tout juste après. Vous suivez Radio Capi et c'est dans la deuxième partie de l'émission Parole aux auditeurs. Comme chaque mercredi, nous avons une première partie, une deuxième partie qui dure environ 13 minutes. Et ce mercredi, nous parlons de la spoliation des aires protégées, nous parlons des parcs nationaux, des domaines de chasse et des réserves forestières. Quelle est la situation dans votre milieu selon vous? Que faut-il faire pour les protéger? Pour en parler, nous avons invité M. Cosmas Wilungula. Il est administrateur délégué général de l'Institut congolais de la conservation de la nature. Surtout, n'oubliez pas, si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez nous appeler au 081-99-77-800. Vous pouvez nous écrire par Internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Nous avions Séraphin qui était en ligne. Il a suivi avec nous notre bulletin d'information. Bonjour Séraphin.
Mais bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Oui,
le thème que vous abordez ce jour sur les antennes, madame, est d'une importance capitale. En fait, ce n'est que le résultat, ou mieux la conséquence du système politique qui a été mis en place depuis l'époque coloniale. Mais ce système a continué à fonctionner jusqu'à aujourd'hui, plus encouragé par les dirigeants actuels. Et voilà, aujourd'hui, nous vivons les résultats du genre. Il y a la misère de la population environnante. Et il y a également l'enrichissement sans cause de certains dirigeants qui touchent des grosses commissions avec l'implantation des sociétés qui exploitent nos bois. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de réchauffement climatique. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune disposition qui est prise. D'ici 10 à 15 ans, on va encore demander aux gens de prier, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive quand les gens vont commencer à mourir, parce que nous n'aurons pas à ce moment-là des heures pour nous protéger. Alors, quelle est la solution, puisqu'on n'a plus de temps? La solution, c'est que on doit créer un système politique qui donne la possibilité à tout le monde de vivre normalement. En commençant par les gens, effectivement, comme l'a dit un auditeur tout à l'heure, les gens qui vivent autour de ce parc. Ce système pourra favoriser le fait que tout le monde puisse s'impliquer dans ce qu'on peut prendre comme décision. Tout au long de cette semaine, madame, vous avez évoqué certains nombres de thèmes. Mais, par exemple, ce n'est pas le sujet du jour que les auditeurs me pardonnent, vous allez déplorer le fait de trouver des enfants qui vont dans des hôtels avec des uniformes. On déplore aujourd'hui le phénomène Corona. Mouzé Kabila avait créé le service national. C'était pour prévenir ce genre de choses. Vous avez vu qu'ici, à Kinshasa, par exemple, à côté des stades de Martyrs, combien de jeunes gens qui sont allés se faire enregistrer dans ce service-là. Aujourd'hui, c'est caché, ça n'existe plus.
du moins dans sa vision, il avait prévu quelque chose. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de s'attaquer aux conséquences parce que c'est le système qui nous gouverne aujourd'hui. Donc on doit casser ce système pour permettre à ce que les gens vivent normalement, mettre en place disons, des lois et des mécanismes pour permettre à tout le monde de vivre normalement. Mm-hmm. Voilà, c'est un peu ça que nous pouvons...
Merci Séraphin, vous appelez à partir de Kinshasa, vous pensez qu'il faudrait revoir le système politique qui a des problèmes en fait depuis la colonisation, même après la colonisation où certaines personnes s'enrichissent en défaveur de certaines populations. Merci beaucoup Séraphin pour votre analyse de la situation. Nous prenons notre dernier auditeur pour cette émission. Il s'agit de Jacques. Il nous appelle aussi de Kinshasa. Bonjour Jacques.
Jacques. Bonjour, monsieur, madame la journaliste, et bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Café.
Oui, pour vous, quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour qu'on puisse arriver à sécuriser davantage les aires protégées, notamment les parcs nationaux, les domaines de chasse et les réserves forestières?
Ok, madame, j'avais entendu parler les précédents auditeurs. De former des policiers, des gardes et tout comme ça. Oui, c'est bien. Mais pour moi, je vois que il faut tout d'abord conscientiser les autochtones, donc la population environnante. Et de deux, il faut réflexionner l'endroit afin d'avoir beaucoup de visiteurs pour faire entrer quelque chose. Et ce que fera entrer là, les entrées là plutôt, que ce soit pour la bénéfice de ces personnes et toute la population environnante. Alors, moi je vois que le problème là des politiciens ou des autorités militaires d'envoyer leurs troupes pour exploiter la forêt, il faut comprendre qu'aussi garde c'est cela. Il faut qu'il y a des sanctions pour les autorités qui font ou qui pratiquent des histoires pareilles. Puisque sans l'interruption de toute opération, on aura toujours des fraudes et tout ce qu'on aura à faire pour la protection, ça sera en vrai. C'est ça que j'avais comme question.
Merci beaucoup Jacques pour votre intervention. Hein. Vous avez donné votre avis concernant ce sujet. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur Cosmas Wilungula, vous avez suivi cette dernière série d'auditeurs. Encore une fois, ils reviennent sur comment est-ce qu'on peut protéger d'abord ces populations sur le plan surtout économique. Qu'est-ce qui est fait concrètement, palpablement, pour que ces populations comprennent que les aires où ils habitent, ils doivent protéger, parce que sans cela, ce sera vraiment assez difficile.
Merci beaucoup. Vous savez ce qu'on va donner? J'ai retenu quelque chose d'intéressant. Tout le monde veut qu'il y ait la sensibilisation. Nous avons pratiquement tout un département de l'éducation muséologique, donc l'éducation environnementale, pour essayer de sensibiliser les gens. Nous avons mis en place la stratégie nationale de la conservation communautaire, rien que pour impliquer nos communautés à la conservation, pour qu'ils comprennent la nécessité de la conservation.
C'est aussi une question de survie pour ces populations.
Et effectivement, et aujourd'hui, nous sommes en train de poser, comme je le disais, des actes d'intérêt communautaire. Vous savez, à Moutonga, on est en train de construire avec nos partenaires, même jusqu'au niveau de barrages hydroélectriques. Nous sommes en train d'aménager les routes. Nous apprenons aux gens même à cultiver les champignons que vous cherchez à Kinshasa, à domestiquer les abeilles pour toutes ces populations-là. J'ai parlé de l'élevage, j'ai parlé même de toute l'agriculture améliorée. Nous sommes dans une série de programmes pour amener nos populations à comprendre que réellement les parcs sont un intérêt pour eux et que le parc est un atout, un vecteur de développement. Nous croyons que sincèrement, on va pouvoir y arriver. Mais ce qui est vrai, et ce qu'on doit pouvoir comprendre, ça ne se passe pas sans qu'il y ait certaines contraintes. Il y a ce vrai de contraintes. Nous sommes un des rares pays, je sais que beaucoup d'auditeurs, j'ai compris, ils n'ont peut-être pas toute l'histoire, nous sommes le premier pays d'Afrique qui a créé un parc. Donc nous avons déjà le souci de préserver. Et si
nous sommes restés en retard, hein, parce que par exemple au Kenya, où vraiment ils ne vivent que du tourisme.
Oui, le Kenya fait plus de 1,5 milliard de dollars de recettes touristiques, nous sommes capables d'en faire. Nous venons de lancer, comme je disais, nous avons des merveilles, nous avons des attractions touristiques énormes qui attirent. Demain, la RDC sera la seule destination touristique en Afrique.
Et ça, il faut que les moyens suivent.
Effectivement, les moyens vont suivre et notre population peut se rassurer. La réglementation de l'ICCN aujourd'hui, nous avons 30% des recettes touristiques qui sont rétrocédées aux communautés. Donc ça, je l'ai dit, je l'affirme, voilà des mécanismes qui sont pour que même de communautés profitent même de recettes touristiques. Et cela sont des choses déjà édictées à notre population, à notre mécanisme de fonctionnement, et nous avons ça pour nos communautés. Nous croyons que demain, vous verrez, si nos communautés peuvent s'intéresser plus à nous contacter, à être avec nous, nos populations, notre politique, parce qu'on ne peut pas protéger si tout le secteur de la vie nationale, les différents services connexes ne comprennent pas l'intérêt de la protection. Vous savez, madame, dans le monde, on ne peut pas s'oublier, c'est la première mission même que Dieu a donnée à l'homme. Ceux qui lisent la Bible savent. Si Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur a dit en premier lieu? Il leur a donné le jardin d'Éden, il a dit cultivez-les et protégez-les. Donc c'est une de premières responsabilités et c'est aussi pour les générations futures. Dieu ne nous a pas donné mandat à nous, la génération actuelle, de terminer toutes les ressources que nous trouvons. Nous devons les protéger pour les générations futures. Et ça, la conservation, il n'y a pas de ressources pour les générations à venir.
Mais concernant la formation plutôt des gardes de parc, parce que c'est aussi un grand problème concernant cette...
Oui, là nous avons des très sérieux problèmes parce que nous avons un travail qui doit être fait, même au niveau de la hiérarchie militaire et autres, nous leur demandons. Les gardes sont formés par des instructeurs militaires et par des académies militaires, même à l'étranger. Mais pour que nous ayons la facilité de le faire aujourd'hui, l'ICCN a besoin d'une dotation en armes et en munitions, donc ce que nous appelons les matières d'ordonnancement. Et cela, nous ne pouvons les avoir que de notre gouvernement et de notre armée. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Si l'ICCN n'est pas capable de mieux protéger nos parcs, parce qu'effectivement, ils n'ont pas les outils, l'équipement du travail qu'il leur faut. Or, la communauté internationale ne peut pas acheter pour nous des armes et des munitions. Ça, c'est notre responsabilité et c'est la responsabilité pratiquement de notre état-major général des forces armées congolaises qui doivent réaliser que 250 000 kilomètres du pays sous responsabilité ICCN doivent aussi être protégés contre tous ces braconniers professionnels.
Mais parce qu'il paraît même qu'il y a un auditeur qui nous a confirmé qu'il y a des braconniers qui travaillent, qui arrivent à tuer les bêtes en collaboration avec les gardes du parc.
Aujourd'hui, madame, il y a 8 ans, je viens de perdre dans l'espace de 6 ans, 7 ans, 220 gardes qui sont morts dans les accrochages avec les braconniers. C'est vrai parce que ce sont des gardes, personne n'en parle, même pas peut-être une note de condoléances à l'ICCN. Mais là, ce sont des braconniers qui mouraient. Effectivement, les gens se soulèveraient, ou nos amis de la société civile. Non, je crois qu'il faut être conséquent. Plus de 220 gardes à travers le monde, c'est le record. Il n'y a aucun pays qui paye un grand prix comme celui-là pour conserver rien que les ressources, qui ne sont pas des ressources pour ces gardes-là, mais qui sont des ressources pour l'intérêt national de notre pays.
Merci beaucoup, Monsieur Cosmas Wilingula, pour avoir répondu positivement à cette invitation.
Merci Radio Okapi qui nous a donné l'occasion de sensibiliser davantage nos compatriotes pour aimer la protection et l'environnement et la conservation de la nature.
Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons aussi merci à tous les auditeurs pour leur intervention. Le prochain rendez-vous avec Parole aux auditeurs, c'est pour demain, 25 février 2002, 25 février 2010. La Radio Okapi soufflera sur les 8 bougies. Ce sera demain. La Radio Okapi aura 8 ans. Et deux questions pour cette émission de demain. Quelle lecture faites-vous du travail de Radio Okapi? Quelles sont vos propositions pour améliorer ces services? Réagissez dès à présent par Internet en nous écrivant à l'adresse pa@radiookapi.net. Restez branchés sur Radio Okapi pour la suite de ces programmes.